Bonjour. La semaine dernière, nous avons abordé la thématique de l'enfance avec l'association des papillons qui œuvre sur la maltraitance des enfants, ainsi que le jardin pédagogique sur Marmande avec Michel Lafitte. Entre-temps, Dame Garonne a fait des siennes, comme il y a 40 ans. Maintenant, elle est revenue dans son lit, mais a commis de nombreux dégâts. Aujourd'hui, à travers la crise sanitaire et son lot de problèmes anxiogènes, nous allons aborder la thématique des médecines douces et naturelles. Aussi, nous allons entendre d'abord Aurélien Abel-Hébert, ostéopathe naturopathe de Horos, qui nous présente l'ostéopathie, les massages thérapeutiques ainsi que les huiles essentielles, ainsi que son site internet et les formations qu'il dispense. Puis nous irons à Marmande avec Corinne Hippolito, qui nous présente Tiatsu, une méthode de massage thérapeutique originaire du Japon, s'appuyant sur la médecine traditionnelle chinoise, permettant de retrouver un équilibre sur le plan physique, émotionnel et psychique grâce à un travail de rétablissement de la circulation énergétique par la pression des doigts sur les méridiens. C'est un peu proche de l'acupuncture. Enfin, Mathilde Berrichon, productrice de plantes aromatiques et médicinales, nous présente la famille des Astéracées. Enfin, côté jardin, l'histoire des choux. Aussi, bonne écoute. Alors, je suis avec Aurélien Abel-Hébert de Horos, qui est ostéopathe naturopathe. Bonjour.
Bonjour.
Alors, l'ostéopathie, d'abord, c'est quoi au juste ?
Eh bien, l'ostéopathie, en fait, c'est une médecine, c'est un art médical qui a environ 150 ans, qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Andrew Taylor Steele aux États-Unis. C'est une approche manuelle, diagnostique et de soins. Voilà, c'est une médecine à part entière, comme l'homéopathie ou la médecine chinoise, par exemple.
D'accord. Et alors, la particularité de l'ostéopathie, c'est à quel niveau alors ? C'est dans les manipulations, c'est quoi, au juste ?
Bah, la particularité de l'ostéopathie, c'est que au lieu de chercher à comprendre comment se développe la maladie, Andrew Taylor Steele a essayé de comprendre comment se développe la pleine santé en partant sur la physiologie, l'anatomie que véritable qu'on peut apprendre d'ailleurs en médecine. La particularité, c'est que le diagnostic et le soin se fait à travers l'outil main, qui est un outil fantastique pour interpréter des lésions et soigner certains symptômes.
Alors, pour faire ostéopathe, je présume qu'il y a une formation à ce niveau-là.
Voilà, il y a un problème en France, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles d'ostéopathie en France, même si bon, il y a eu des agréments là qui ont été revus, mais en gros, il y a une dizaine d'écoles en Angleterre, il y en a plus d'une cinquantaine en France. Donc, il y a des formations qui sont assez différentes. Qui fluctue entre 2 ans de formation si vous êtes médecin ou kiné, par exemple, jusqu'à 6 ans de formation si vous êtes ce qu'on appelle ni, c'est-à-dire ni kiné ni médecin. Moi, j'ai tenu un cursus de 5 ans.
Donc, d'abord, en tant que kiné, c'est ça, au départ ?
Voilà, moi, je suis de formation kiné, ouais, j'ai eu mon diplôme en 2007.
Et donc, à la suite de ça, kiné, on est passé à l'ostéopathie ?
Tout à fait, ouais. C'est d'ailleurs les kinés qui ont ramené l'ostéopathie en France. Ils ont été formés en Angleterre il y a une quarantaine d'années à peu près, pour les premiers. Donc c'est pour ça qu'on fait souvent l'amalgame d'ailleurs entre la kiné et l'ostéopathie. Voilà, alors après tout le monde ne le fait pas. C'est vraiment deux métiers différents. La kiné, ça reste... Donc quand on est kinésithérapeute, c'est... On est auxiliaire médical. En France, il y a 3 professions médicales qui sont médecin, dentiste et sage-femme. Et le reste des professions de santé, c'est des auxiliaires médicaux. C'est-à-dire qu'on est, quand on est kiné, on est soumis à une ordonnance. On n'est pas soumis, c'est pas vrai, parce qu'on peut s'adapter, mais on dépend d'une ordonnance médicale. Donc, on est, la kiné fait partie du système classique, hein, médical, allopathique. C'est une profession fantastique qui trouve un intérêt énorme, surtout dans la traumatologie, dans les suites de chirurgie. C'est extraordinaire. Ça touche à tous les domaines. En France, on dit masseur kinésithérapeute, donc les kinés, ils massent, ils utilisent leurs mains, du moins pour certains. Et dans les pays anglo-saxons, on parle plutôt de physiothérapeute, c'est-à-dire que là, On va surtout utiliser de l'électrothérapie, de l'ultrason, des lasers et évidemment de l'activité physique. Mais en fait, le kiné a de moins en moins tendance à toucher les gens parce que c'est un métier qui se technicise, on va dire. Et l'ostéopathie retourne un peu aux sources cliniques, palpatoires, qu'on perd un petit peu. Et c'est deux métiers complémentaires, hein. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre.
Et alors, comment est venue l'ostéopathie, finalement ?
Pour moi ?
Oui.
Moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien prendre les gens en individuel pendant mes séances. En kiné, il y a toujours 2-3 personnes en même temps, et c'est tout à fait normal parce que il y a des exercices à faire, etc. Et moi, j'ai trouvé ça très sympa, mais je me suis retrouvé beaucoup plus épanoui dans essayer de rechercher pourquoi la personne a tel symptôme, pourquoi ça disparaît pas, si on pouvait peut-être un peu travailler sur le système digestif, sur des manipulations de certains tissus, peut-être que il y avait des manifestations douloureuses qui venaient de d'autres sites anatomiques, et ça, l'ostéopathie, pour ça, c'est un bel outil. Donc moi, j'aime bien ça. Voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à l'ostéo.
Et alors, naturellement, de ostéo, on est passé à naturopathie, c'est ça?
Ouais, en fait, c'est après la kiné. Moi, j'ai fait des études d'aromathérapie juste après mon diplôme de kiné et avant de partir en voyage pendant un an et demi. Et c'est ma première porte d'entrée en naturopathie. Et après, j'ai accumulé des formations, que ce soit en phytothérapie, j'ai un diplôme universitaire en alimentation santé, micronutrition. Je suis formé dans les ventouses, etc. Et j'adore le massage. Donc tout ça, ça fait partie de la naturopathie. Et j'ai fait une validation d'acquis professionnel en naturopathie, parce que il y a une imbrication entre le mécanique, la médecine mécanique et la médecine ostéopathique, qui est la médecine métabolique, hein, qui est la médecine d'hygiène de vie, ou ce qu'on peut avoir comme thérapie chimique naturelle. Donc les deux sont très intéressants à travailler ensemble.
Le fait d'être parti pendant un an et demi, là, le tour du monde, ça apportait quoi ?
Là-bas, c'était un tour du monde du football. Hein. On a fait 28 pays, on était trois. On est parti un an et demi. On a fait un livre qui s'appelle Terre de foot, qui a été préfacé par Eric Cantona. Et moi, ça m'a quand même permis aussi d'aller voir un petit peu des médecines traditionnelles, quoi, en Afrique, en Amérique du Sud, en Bolivie, par exemple, où j'ai côtoyé des médecins traditionnels en Afrique, dans le pays d'Ogon. Donc, c'est intéressant de voir aussi les manipulations, les thérapies séculaires millénaires qui existent. Donc c'est vrai que c'est une corde de plus à son arc d'un point de vue expérience, quoi. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir l'esprit par rapport à ça, c'était intéressant. Et j'ai eu la chance petit aussi de beaucoup voyager en Asie, et j'avais déjà côtoyé la médecine tibétaine, j'avais 10 ans, j'ai eu des expériences comme ça très très intéressantes, et c'est vrai que les médecines orientales sont quand même la source de thérapie qui existe à l'heure actuelle, quoi. Donc c'est bon de s'y intéresser, je crois, d'y retourner aux sources à l'heure actuelle.
Et alors, à partir de là, le fait d'avoir travaillé à la fois sur le côté aromothérapie, naturopathe, ostéopathe, écrire un livre, c'était intéressant de pouvoir transmettre au grand public, finalement, quelque chose.
Parce que c'est vrai que on peut être acteur de sa santé. Après, c'est toujours la difficulté, justement, dans ce qu'on appelle les thérapies alternatives ou complémentaires. C'est compliqué de trouver un terme qui va bien. Je trouve que complémentaire, c'est bien. Ou thérapie non conventionnelle par rapport à la médecine conventionnelle. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est de la complémentarité. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que le diagnostic est capital. Je veux dire, on peut pas soigner des fractures. On peut pas soigner des états aigus avec l'ostéopathie, la naturopathie. C'est très très important d'avoir une capacité diagnostique, de savoir quand c'est pour nous, quand c'est pas pour nous, de pouvoir travailler avec des médecins. Donc ça, j'insiste beaucoup, j'insiste là-dessus dans le livre, c'est un chapitre, mais j'insiste beaucoup là-dessus au quotidien avec les gens. C'est-à-dire vraiment que nous, on est assez, on va agir sur ce qu'on appelle les troubles fonctionnels, c'est-à-dire quand vous avez des gènes, des soucis qui finalement, au bilan biologique, aux imageries, il n'y a pas grand-chose, mais vous êtes gêné. Et donc, pouvoir agir là-dessus avec différents outils. Et ces outils, faut connaître les fondamentaux, faut pas faire n'importe quoi avec. Et c'est important d'informer les gens, c'est vraiment important, parce qu'il n'y a pas de formation dans l'université, dans la fac de médecine, il n'y a pas de formation là-dessus. Et il faut transmettre aux gens. En aromathérapie, par exemple, c'est très important de savoir ce qu'on fait. C'est un peu clairement dangereux, etc. Donc, il faut informer les gens. C'est vrai que ça, c'est mon dada. Enfin, je trouve ça très important, surtout, parce qu'on voit beaucoup de choses dangereuses, hein, clairement, qui sont faites. Donc c'est important d'informer les gens.
Quand on parle aromathérapie, c'est surtout huile essentielle, c'est ça ?
Voilà, alors l'aromathérapie, c'est donc l'utilisation des huiles essentielles dans le soin. Donc c'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes dans le soin. Donc c'est qu'une partie de la phytothérapie, mais c'est la partie la plus puissante. C'est-à-dire que dans une huile essentielle, vous avez plus de 10 molécules actives. Quand vous en avez une, voire deux dans un médicament, pas plus. Une huile essentielle, c'est au moins 10 molécules actives. Et ces molécules, elles vont agir sur le système nerveux central, sur les poumons, sur le foie, sur la peau. C'est très puissant. On peut les comparer à des médicaments. En tout cas, il faut que le grand public le voit comme ça. Il faut le voir plus proche d'un médicament que d'une infusion. C'est très clair. Donc, il faut vraiment prendre ça avec précaution, voir les précautions d'usage et en particulier les utiliser de manière très ponctuelle. Arrêter de les utiliser dans le bain, dans le shampoing. D'ailleurs, ça ne se dilue pas dans l'eau du bain. Il faut toujours le mettre dans un dispersant. Ne pas le mettre dans le dentifrice, dans le parfum. Voilà. Il ne faut pas mettre de l'huile essentielle tout le temps partout parce que c'est dangereux pour la peau, c'est dangereux pour le foie, c'est dangereux pour les reins. Et ça, on ne le répète pas assez. Et se fournir aussi à des endroits où on trouve des huiles essentielles de qualité. Et voilà, c'est vrai que l'aromathérapie, on en parle beaucoup, mais finalement, les principes de précaution d'usage et la qualité des huiles essentielles, en fait, on en parle très peu. Donc, c'est essentiel. Donc, c'est pour ça que moi, je fais des formations, justement, régulièrement là-dessus. Je les mets sur mon site et régulièrement, voilà, c'est des petits groupes de 6 à 10 personnes. Voilà, on reprend un petit peu les bases. Une fois qu'on les a, par contre, alors on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut bien manier ces outils puissants.
Alors parce que bon, finalement, l'huile essentielle, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Depuis une dizaine d'années, on en parle beaucoup d'huile essentielle, mais faut faire finalement très attention. Ça, c'est à prendre avec précaution, quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est le docteur Jean Valnet. C'est un médecin chirurgien qui a remis l'aromathérapie au goût du jour en France dans le milieu du XXe siècle. Et c'est vrai que il y a, ouais, comme vous dites, c'est fait une, ouais, dizaines d'années, 5-10 ans, même les 5 dernières années où ça explose et on voit des sites, des blogs, bon, enfin, c'est un énorme business, il faut pas l'oublier. Il faut pas oublier que la nature aussi a des ressources limitées, donc il faut quand même se dire que pour avoir un litre d'huile essentielle de rose, il faut un hectare de rosier, il faut 150 kilos de lavande aspic pour avoir un litre d'huile essentielle. Enfin, c'est des proportions très très importantes. Enfin, c'est un vrai cadeau de la nature, très puissant. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie et surtout pas rentrer dans des effets de mode en disant que ça sent bon et que ça fait du bien. C'est vraiment. Enfin, moi, j'en parle avec pratique. J'ai vu des cas. J'ai vu des cas de ce qu'on appelle une œsophagite, c'est-à-dire des gens qui se brûlent l'œsophage avec des huiles essentielles prises sur une mie de pain, par exemple, de la cannelle, pour la citer, sur une semaine, ça suffit. Donc des gens qui font se faire des brûlures dans l'œsophage. Et j'ai une patiente qui s'est fait une ce qu'on appelle une hépatite toxique à force d'ingérer de l'origan sur des comprimés neutres. Mais c'est pareil, c'était sur 12 jours. Donc c'est vraiment pas anodin, on peut être vraiment très atteint, et c'est souvent aussi des problèmes de peau qu'on voit, des gens qui se grattent, qui font pas le lien. La dernière fois que j'ai eu un patient, c'était dans son spa, chez lui, il mettait ses huiles essentielles achetées dans le magasin de spa, et en fait, il se comprenait pas, il se grattait partout, et en fait son eczéma ça venait de là, quoi. Quand il a arrêté d'en mettre dans son spa, et il a arrêté de se gratter. Donc voilà, tout ça c'est important de le dire, et voilà, c'est vraiment informer les gens là-dessus, quoi, sur les effets thérapeutiques extraordinaires, c'est vraiment extraordinaire, mais aussi les effets délétères possibles. Thank you.
d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime
du plus fort que je peux.
Tu m'aimes.
Alors, livre qui a été édité, c'est quoi le titre?
Alors, j'ai fait un livre en 2016 qui s'appelle « Essai sur la santé, abécédaire d'un ostéopathe kinésithérapeute », voilà, qui regroupe 36 chapitres. C'est un livre qui est ouvert sur pas mal de choses différentes. Hein. On parle de toute l'aromathérapie, justement. Je parle du foie, de la thyroïde, comment elle fonctionne, de l'arthrose, comment la prendre en charge, etc. Enfin, il y a 36 chapitres différents.
Alors, ce livre, on peut le trouver où, là?
Eh ben, le livre, en fait, il est sur le site internet, sur mon site internet, quoi. Il est en PDF. On peut l'avoir en PDF, je crois qu'il est à 9,90€, je crois. Et sinon, on peut l'avoir en livre normal, en le commandant, pareil, par le biais de ce site.
Alors, le site, c'est quoi comme site, là?
Alors, c'est ostéopathe-naturopathe.fr.
Alors, je répète, ostéopathe, T-H-E, naturopathe, T-H-E aussi, .fr. Et donc là, on va trouver non seulement le livre, mais également des vidéos.
Voilà, alors, effectivement, effectivement, là, je suis en train de faire des formations vidéo. Alors, c'est, il y a une formation vidéo là qui va sortir, mais exclusivement pour les ostéopathes dans 15 jours. Et ensuite, dans la foulée, je sais pas, d'ici un ou deux mois, il va y avoir des vidéos dans le même principe, mais pour le grand public. Mettre en avant ce que je viens un peu de dire, c'est-à-dire les fondamentaux de certaines pratiques thérapeutiques, et puis la pratique et l'expérience que je donne, et pouvoir utiliser tout ça avec, de manière sécuritaire.
On a à l'heure actuelle, vu le contexte de crise sanitaire, beaucoup de gens qui sont angoissés. Là aussi, il y a une vidéo là-dessus qui présente un petit peu comment on peut arriver à décompresser, etc.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très prégnant là, il y a pas longtemps, pas toujours d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où tous les gens se plaignaient de ça. Effectivement, voilà, effectivement, là, j'ai fait une petite vidéo qu'on peut trouver sur YouTube, je crois, qui donne 4 petites astuces. Alors après, il y en a des dizaines d'autres, hein, mais qui donne 4 petites astuces, en particulier le travail sur le sternum. Hein, le sternum, c'est l'os, hein, qui relie les côtes, là en avant, entre les pectoraux. C'est un os qui est très sensible aux angoisses, à l'anxiété, et ne serait-ce que de mettre du chaud dessus, une bouillotte, et de le masser doucement avec de l'huile végétale. Voilà, rien que ça, c'est quelque chose qui va agir sur la détente, parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle le nerf vague, qui est justement responsable du malaise vagal, et qui est aussi responsable de l'angoisse. Hein, il équilibre le système sympathique et parasympathique, voilà. Et donc, vous avez aussi les poumons, etc. Enfin, tout ça, c'est une zone derrière qui est importante à détendre quand on est anxieux, quoi.
Par rapport au sternum, là, quel type d'huile essentielle faut utiliser?
Bah, alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut se reporter aux précautions d'usage. C'est-à-dire qu'il faut faire le test, hein, de la peau avant. C'est-à-dire qu'il faut appliquer l'huile essentielle sur son poignet et attendre 48 heures, voir s'il y a des réactions. Si c'est pas le cas, on peut effectivement utiliser l'huile essentielle diluée à 50% dans de l'huile végétale. Alors, il y a plein d'huiles essentielles à utiliser. Ce qu'il faut, c'est qu'elle vous plaise. Il faut que l'odeur plaise. La plupart du temps, c'est les agrumes qui vont avoir un effet de détente important, apporter un peu de soleil aussi. Donc on pense à la bergamote, on peut penser à l'orange douce, à la mandarine verte, qui sont des huiles essentielles, donc plutôt dans la détente. Vous avez aussi la lavande vraie ou la lavande officinale, le basilic exotique, qui est ce qu'on appelle une huile essentielle adaptogène, qui va vous donner de l'énergie quand vous êtes fatigué ou qui va vous poser un peu quand vous êtes tendu. La marjolaine à coquille, qui est un peu plus anxiolytique. Voilà, etc. Donc ce qu'il faut, ce qui est important, c'est d'adhérer à l'odeur. Ça, c'est primordial. Mmh. Et effectivement, vous mettez, vous pouvez mettre une goutte sur le sternum et le mélanger avec de l'huile végétale et masser une à deux fois par jour. Mais l'idéal, ça reste de mettre de l'huile essentielle sur un mouchoir qu'on aime bien. Et quand on se sent un peu angoissé, stressé, on peut la respirer. Comme ça, vous n'avez pas d'interface sur la peau et tout de suite, on va avoir une action importante sur la détente.
Alors par ailleurs, il y a des formations qui sont assurées sur Oros aussi, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, évidemment, il y a eu un gros arrêt avec ce qui nous est arrivé, mais ça devrait reprendre là au printemps prochain, très certainement. Donc j'ai pas encore les dates fixées, mais je les mettrai sur mon site pour les gens que ça intéresse. Effectivement, ça se passe à Oros sur des petits groupes et sur l'aromathérapie, les compléments alimentaires et les ventouses aussi. Voilà.
Alors donc c'est où au juste à Oros?
C'est au pôle médical, enfin au pôle de santé d'Oros. Voilà, c'est au pôle de santé d'Oros dans une salle.
Très bien. Donc, on va peut-être rappeler le site internet pour avoir les compléments d'information.
Ouais, alors c'est www.ostéopathe-du6, naturopathe.fr.
Et là, donc, on va tomber sur Aurélien Abel-Hébert qui va nous expliquer un petit peu toutes les problématiques avec des vidéos et puis en même temps ce livre qu'on peut trouver soit sur le site, soit le commander.
Exactement.
Très bien. Bon, ben merci Aurélien.
Ben merci Patrick.
Et à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi.
Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme, alors je me suis laissé aller.
Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc.
Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi.
Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
Passons mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit.
Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien.
Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en fait de moi dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent, on me recherche, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je sais pas, vite peur que je me perche, inutile de me mettre au trou.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
Avec Corinne Hippolito de Marmande qui fait du tiassou. Alors bonjour.
Bonjour.
C'est quoi le tiassou juste?
Alors le shiatsu, ça veut dire pression des doigts en japonais, littéralement. C'est un art de santé japonais contemporain. C'est issu de techniques thérapeutiques de connaissances de plusieurs pays, en particulier la Chine, les États-Unis, mais même l'Espagne et la Hollande qui ont fait apparaître l'anatomie au Japon au XVIIe siècle, et les États-Unis avec la chiropraxie. Donc c'est une sorte de mélange de plusieurs techniques qui est devenu le shiatsu.
Alors quand on dit shiatsu, c'est donc une méthode japonaise qui est ancestrale, je présume.
C'est contemporain, c'est-à-dire ça, effectivement, il y a quelque chose d'ancestral dans le sens où ils utilisent aussi le tuina qui est chinois, et ça c'est très ancien, mais c'est beaucoup plus contemporain parce qu'ils ont utilisé des méthodes, enfin comment dire, ils ont rapproché ça avec l'anatomie découvertes grâce à l'Espagne, la Hollande, les États-Unis d'Amérique avec la chiropraxie. Et c'est seulement officiel au Japon depuis 1957. Et en France, depuis 1997, c'est reconnu par le Parlement européen comme une médecine non conventionnelle, mais digne d'intérêt général.
Alors pour ça, je présume qu'il faut faire des formations, là.
Ah oui, il y a entre 3 et 4 ans de formation en fonction des écoles, pendant lesquelles on apprend en partie la médecine traditionnelle. Comment dire, c'est pas vraiment, on n'apprend pas la médecine traditionnelle chinoise, c'est un peu présomptueux. On apprend quelques notions de médecine traditionnelle chinoise, en particulier les trajets des méridiens, les points méridiens les plus importants, les nœuds énergétiques qui permettent de travailler sur l'énergie corporelle et d'apporter un bien-être ou de soigner des maux tels que les maux de dos, les problèmes digestifs ou... Ah bon, le domaine d'action du shiatsu est très vaste et la formation donc demande au moins 3 ans.
Alors là, je pense qu'il y a une école sur Bordeaux, c'est ça?
Alors oui, il y en a même plusieurs. Enfin, mon école, c'est celle de Fabienne Demillian et de Michel Sarr. Je ne pourrais pas vous dire quels sont les noms des autres écoles, mais je sais qu'il y en existe au moins une autre.
D'accord, c'est un diplôme. Il faut au moins 3 années de formation pour avoir ce diplôme, c'est ça?
C'est ça, on a un diplôme de l'école de Shiatsu. Il y a même une reconnaissance de l'État, que je ne dise pas de bêtises, la RNCP, reconnaissance nationale de certificat professionnel, que j'ai, et qui est actuellement, on essaye de la renouveler pour que de nouveaux spécialistes en Shiatsu puissent sortir de l'école.
D'accord. Et alors, par rapport à ça, le shiatsu se rapproche un peu de l'acupuncture ou pas, là?
Alors, le point commun qu'il y a entre le shiatsu et l'acupuncture, ce sont les points méridiens, ou surtout plutôt les trajets des méridiens, parce que les points méridiens sont pas tout le temps les mêmes avec le shiatsu ou avec l'acupuncture, parce qu'avec le shiatsu, il y a plus d'efficacité sur certains points, et avec l'acupuncture, vous aurez d'autres efficacités. Le shiatsu, en plus, c'est, comme je vous l'ai dit, pression des doigts. Donc, on n'utilise que nos mains avec le shiatsu. Avec l'acupuncture, on utilise des aiguilles.
D'accord. Donc, c'est tout simplement les méridiens du corps pour, par les doigts, on peut retrouver un équilibre, c'est ça?
Voilà. Le domaine d'action, comme je vous l'ai dit, est assez vaste. Pour moi, ça aide le corps à accélérer sa propre guérison. On peut travailler sur des maux de dos, des lombalgies, des sciatiques, des douleurs articulaires, tout ce qui est la sphère digestive, même en gynécologie. Alors là, je vous parle évidemment du physique, mais ça fonctionne aussi très bien sur des problèmes plus psychologiques, ou du stress, de l'anxiété, certains types de fatigue, de burn-out, des troubles du sommeil. Ça fonctionne sur beaucoup de choses, étant donné que ça stimule le corps, ça l'aide à se guérir lui-même. Du coup, étant donné que le corps a souvent les solutions pour se guérir tout seul, le shiatsu se contente de l'aider à se mettre un peu mieux sur la voie.
C'est que remettre en harmonie, quoi.
Voilà, c'est ça. Effectivement, ça remplacera pas un suivi médical, mais en complémentarité d'un suivi avec votre médecin, ça peut être très efficace pour vous aider à soigner les petits maux de la vie de tous les jours.
Donc ça peut être déjà le stress au quotidien, c'est ça?
Exactement. Très efficace sur le stress au quotidien, mais sur aussi des pathologies qui sont en rapport avec le stress, telles que l'eczéma, le psoriasis, certains types de migraines, voilà. Ça fonctionne très bien là-dessus aussi.
Alors, si on prend le déroulement d'une séance, ça comprend quoi au juste?
Alors, je reçois la personne, un petit questionnaire pour savoir comment elle se sent, enfin, comment elle se sent d'une manière générale, et pourquoi elle vient aujourd'hui. Ensuite, je prends les pouls, c'est-à-dire, c'est pas prendre le pouls dans la manière occidentale, c'est prendre les pouls à la manière chinoise, c'est-à-dire on prend sur les deux poignets, et il y a 6 pouls de chaque côté.
Là, le fait de la prise des pouls, ça sert à quoi?
La prise des pouls sert à savoir quel est l'élément qui est le plus touché. Si c'est un problème, parce qu'on travaille beaucoup avec les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont le feu, l'eau, le métal, le bois et la terre, voilà. Et ce sont donc ces cinq éléments. Et avec les pour, on peut savoir quel est l'élément le plus touché et donc travailler dans le rééquilibrage de cet élément pour que, à nouveau, notre corps fonctionne comme il faut.
Alors là-dedans, je vois, il y a le seita. C'est quoi le seita?
Alors le setai, pour être
setai, précis, pardon.
Alors là, c'est plus posturologique. C'est, comme je vous l'ai dit, le shiatsu aussi a emprunté à la chiropraxie occidentale. Et le setai se rapproche plus de ça, où on travaille sur les muscles autour de la colonne vertébrale, les muscles intervertébraux, ce qui va permettre de soulager des tensions et tout doucement, certains déplacements qui se sont faits de la colonne vertébrale, quand je dis déplacements, ce sont des tout petits déplacements. S'il y a un vrai gros déplacement, effectivement, vous voir un médecin, quoi. Mmh. Mais si c'est juste quelque chose qui crée des tensions, qui fait qu'on a un peu mal au dos, le setai va être très efficace. Sur des sciatiques, par exemple, sur de la lombalgie, sur des. Même certains types de cruralgie, ça peut aider à soulager.
D'accord. Donc, ça, c'est le sitai. Après, on va trouver un autre à l'intérieur, on va trouver sur un travail sur les étirements de méridiens.
Ah oui, alors là, ça, c'est le Ohashi Shiatsu, ça, c'est quelque chose que j'ai fait en stage, mais bon, il y a carrément des grands professionnels du Ohashi Shiatsu. Ça vient de Sensei Ohashi, c'est un maître qui était japonais, qui était allé aux États-Unis. Il était avec des grands danseurs d'une école de New York très connue, et donc il avait travaillé énormément sur les étirements, et ça permet de faire un type de shiatsu très, très doux, et qui permet vraiment tout en douceur de récupérer des tensions souvent sur des douleurs musculaires, voilà.
Oui, liées principalement aux activités de danse à ce niveau-là.
Pas seulement, du coup, à la base, ça a été fait pour les danseurs, mais ça aide maintenant sur tout type musculaire. Ça permet de travailler en douceur sur des tensions musculaires, voilà.
Après, on va trouver un autre élément, c'est pour récupérer son énergie au jour le jour avec les moxas. C'est quoi ça?
Alors, les moxas, ça c'est quelque chose qui a été emprunté, enfin que j'utilise, qui est emprunté à la médecine traditionnelle chinoise. Certains moxas, ça je ne l'emploie pas, se font directement sur les aiguilles. Moi j'utilise des cigares de moxa, des bâtons de moxa, et donc ça permet de, en rapprochant un moxa, un cigare d'armoise, ça permet de ce qu'on appelle cautériser un point méridien, et donc de le chauffer jusqu'à ce que ça soit un peu brûlant, pour que toute l'énergie du corps se dirige aille dans cette direction, et ça permet d'avoir une meilleure approche au niveau du travail sur les méridiens. Ça permet de travailler au jour le jour, parce que même les personnes peuvent le faire de leur côté, sous une certaine direction. Par exemple, tout ce qui est problème de constipation, des grosses fatigues, c'est très efficace le moxa pour ça.
Donc, c'est une technique traditionnelle chinoise, ce sont des bâtons d'armoise, c'est ça, qu'on fait brûler. Voilà. Donc, il faut quand même bien connaître les méridiens là, pour ça.
Ah, bien sûr, il faut connaître les méridiens. Maintenant, à partir du moment où vous connaissez le point qu'il faut faire, et que vous ne faites pas n'importe comment, que vous ne cherchez pas à vous brûler à tout prix, ça reste quand même pas trop dangereux.
Alors on va continuer avec le hama assis, c'est quoi ça?
Ah, le hama assis, ça c'est pas du tout la même chose que le shiatsu, c'est encore de l'acupression, enfin c'est pression encore manuelle, c'est une technique de relaxation par acupression, il se pratique habillé, sur une chaise ergonomique. Alors ça, c'est vraiment pour la relaxation, la détente, un effet énergisant. C'est vraiment quelque chose qui permet de se détendre, se relaxer. Ça peut même se pratiquer en entreprise. parce que ça dure entre un quart d'heure et 20 minutes. Et donc, on peut faire ça en entreprise entre midi et deux, par exemple. Moi, j'ai déjà fait lors d'opérations, la direction m'avait engagé pour faire tous leurs partenaires présents et on avait fait toute la journée, chacun son tour, venait faire ses 10 minutes, un quart d'heure. De hamas assis, c'est très, très détendant.
Donc, ça diminue le stress et croissance et transformation émotionnelle, c'est ça, à partir de cet aspect-là.
Oui, voilà, c'est très efficace sur du court terme. Le hamas assis, c'est vraiment fait pour se détendre, se relaxer. Par contre, le shiatsu, ça a une efficacité dans la durée.
D'accord. Donc, ça s'adresse finalement de 7 à 77 ans, comme Tintin. Ça peut commencer aux enfants, les seniors, les sportifs.
Ça s'adresse même à des jeunes enfants. La plus jeune personne qui est venue me voir, elle avait 10 jours. Donc, c'est vous dire qu'on peut commencer très tôt le shiatsu. Effectivement, les pratiques ne sont pas les mêmes. On y va beaucoup plus en douceur avec un enfant de moins de 7 ans qu'avec forcément un adulte. On y va aussi à nouveau plus en douceur avec des personnes plus âgées. Mais effectivement, ça s'adresse à tout public.
Pour gérer le stress au quotidien, parce qu'à l'heure actuelle, dans la crise sanitaire, il y a beaucoup de personnes qui ont des angoisses, des stress, etc. Le shiatsu est très bénéfique, là.
Ah oui, le shiatsu est très, très bénéfique pour tout ce qui est anxiété. Par exemple, ça fonctionne même sur des burn-out, sur de la dépression. Alors, effectivement, pas tout seul. Il y aura aussi besoin d'un suivi psychologique, mais en complément d'un suivi psychologique, c'est très très efficace sur la dépression, les burn-out. Ça fonctionne aussi sur des problèmes de troubles du sommeil, souvent dus au stress, voilà, sur l'anxiété et l'angoisse.
D'accord. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour là sur le shiatsu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à rajouter là ?
Souvent, les gens qui viennent me voir arrivent avec le teint un peu terne, on sent qu'ils sont fatigués et très souvent, en fin de séance, ils sont plus détendus, plus calmes, souriants souvent. C'est vrai que ça apporte, le shiatsu souvent apporte le sourire.
D'accord, donc ça c'est important. Pour contacter, là, il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet par rapport à ça.
Vous pouvez me contacter, je suis Corinne Hippolito à Marmande.
Oui.
Et j'ai un site internet qui s'appelle shiatsu-santé47.fr. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 82 49 60 01.
Alors je répète, 06
82 49 60 01.
Voilà. Merci Corinne Hippolito de nous avoir éclairé finalement sur le shiatsu, dont on a bien besoin en ce moment.
Oui, ça fait bien du bien.
Ouais.
Merci.
Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, de tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui gomme.
Avez-vous déjà observé comme le tournesol tourne pour suivre la courbe du soleil? En italien, on l'appelle gira sole. Venez, on part dans les étoiles à la rencontre des astéracées. Astéracées, c'est la deuxième plus grande famille botanique sur Terre. On en trouve partout dans le monde, quel que soit le climat. Donc vous en trouverez près de chez vous, partout en France. Il y en a de toutes petites, comme la pâquerette, le pissenlit, la camomille romaine ou noble, et la camomille matricaire ou allemande. Et puis, il y en a de très grandes, comme l'armoise cultivée, mais aussi l'armoise sauvage, l'absinthe, la marguerite, le chrysanthème et l'échinacée. Ces plantes sont des herbacées. Leur tige reste verte et ne fera pas de bois. Chez les astéracées, il y a des plantes annuelles, comme le souci des jardins, Calendula officinalis, des bisannuelles, comme la bardane, et des vivaces, comme le pissenlit et l'achillée millefeuille. Il y en a même qui donnent des graines, dont on extrait l'huile, et qu'on appelle oléoprotéagineux, comme le tournesol. L'aster, étoile en grec, est la plante représentative de la famille des astéracées. Elle fleurit à l'automne et offre aux abeilles de quoi préparer l'hiver. Reconnu. reconnaît-on une astéracée? Si je prends un calendula, une marguerite, un tournesol, qu'est-ce qui les rassemble? Eh bien, d'abord et avant tout, la fleur. En fait, c'est pas une fleur, mais un bouquet de fleurs. À l'extérieur, des fleurs ligulées, qu'on appelle communément pétales, mais qui n'en sont pas, et qui servent de repère visuel et de plateforme d'atterrissage pour les pollinisateurs. Ce sont les fameux, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et au centre, le cœur, mais pas du tout. En fait, ce sont aussi des fleurs, mais cette fois des fleurs qu'on appelle tubulées, parce qu'elles forment de petits tubes. Alors, je récapitule. Cet ensemble de fleurs ligulées plus tubulées, ça s'appelle un capitule. De caput, en latin, la tête. Et oui, qu'est-ce qu'un capitaine, sinon le chef d'une troupe? Et qu'est-ce que je fais quand je capitule, sinon baisser la tête? Une autre clé de détermination des astéracées, ce sont les bractées. Ces pièces de protection du capitule, qu'on voit très bien sur les bleuets et les centaurées, et qu'on mange sur l'artichaut. Une fois que les fleurs ont été pollinisées, elles se transforment en graines, puis s'envolent. Et on se retrouve avec le réceptacle. Donc là, on voit les fleurs tubulées. Et quand on a arraché les fleurs tubulées, on voit le réceptacle floral. Et là, sur l'artichaut, on a le réceptacle floral, le départ des bractées, la fleur, les fleurs qui s'ouvriraient si on ne coupait pas l'artichaut pour consommer les bractées. Et là, on voit les papus en devenir. Que fait-on de ces astéracées? D'abord, on les utilise en interne pour la sphère digestive, car elles sont souvent comestibles. Donc, on les mange ou on les boit en tisane ou en apéro. Par exemple, les feuilles de laitue, de pissenlit, d'endive, mais aussi le capitule d'artichaut avec ses bractées et son réceptacle floral, ou encore les graines du tournesol, mais aussi les racines, celles de la bardane, de la chicorée, du pissenlit, qui contiennent de l'inuline prébiotique qui nourrit notre flore intestinale. Car les astéracées sont des plantes apéritives. Et qu'est-ce qu'un apéritif? C'est quelque chose qu'on prend avant le repas, car ça va ouvrir, comme dans « aprire » en italien ou « abrir » en espagnol. En effet, les astéracées, plantes amères, préparent notre organisme à la bonne digestion des aliments. Souvent, chez les astéracées, on sent une amertume. Rappelez-vous, l'achillée, c'est bel et bien une astéracée. Et cette amertume, c'est un signe que ces plantes vont favoriser la production de bile, drainer le foie et favoriser la digestion. C'est le cas du chardon-marie, de l'artichaut, de la bardane ou du pissenlit. On utilise également les astéracées en voie externe pour la sphère cutanée en raison de leurs propriétés vulnéraires, réparatrices et anti-inflammatoires. Elles entrent dans la préparation de baumes, par exemple adoucissant au calendula ou cicatrisant à l'achillée millefeuille, mais aussi d'eau florale, adoucissante ou hydratante, au bleuet ou à la camomille romaine, et de manière générale dans les soins cosmétiques, à l'arnica ou par exemple un macérat huileux de pâquerette. Ces propriétés médicinales réputées se perçoivent à l'odeur puissante qui s'en dégage, comme dans l'armoise si stimulante qu'elle était appelée coca des anciens. Elle est également sudorifique, elle fait transpirer, et éménagogue, elle fait venir les règles, tout comme l'absinthe qui, elle, est aussi vermifuge, ou encore la tanaisie, qui fait merveille en répulsif anti-insectes. Enfin, certaines astéracées sont utilisées pour leurs huiles essentielles, comme par exemple l'achillée millefeuille, l'hélichryse italienne ou immortelle, la camomille romaine ou noble et la matricaire. fin de cette balade, aux côtés des astéracées, ces plantes qui rayonnent comme des étoiles. Et n'oubliez pas, c'est le végétal qui fait l'animal.
Et voici Côté Jardin avec Patrick.
Aujourd'hui, je vous parlais du chou. Le chou est un légume qui se décline à un nombre impressionnant de formes et de variétés. Qu'on en juge. Voici d'abord le chou paumé ou cabu, dont la tige atrophiée permet aux feuilles de s'imbriquer étroitement pour former une pomme plus ou moins serrée. Puis les choux verts ou frisés, dont les amples feuilles ne se nouent jamais en une pomme. Vient ensuite le chou de Milan, sorte de synthèse entre les deux précédents, puisqu'ils sont à la fois paumés et frisés, sans oublier le chou rouge, qui ne différencie des choux paumés que par la rutilance de leur feuillage. À quoi s'ajoutent les choux raves, dont la tige renflée au-dessus du sol forme un bulbe volumineux, et les choux navets ou rutabaga, ou l'hypertrophie, portent cette fois sur la racine. Par contre, les choux de Bruxelles résultent du développement de minuscules bourgeons latéraux situés à l'aisselle des feuilles. Quant aux choux-fleurs, c'est la monstruosité de leur rampe florale atrophiée et raccourcie qui doivent leur belle pomme blanche. N'oublions pas encore les brocolis, dont on consomme les pousses violettes et charnues par des asperges. Les choux m'ont toujours fait penser à ces familles nombreuses où l'on voit représenter les types les plus variés de l'humanité, dit Henri Leclerc dans le fameux morceau d'anthologie qui mérite d'être cité et lu le dictionnaire à la main. Il est de géants et de nains, de ventrus comme de financiers, de grêles comme des poètes incompris. Certains s'adonnent à des frisures, d'autres à des boucles robustes, enfin dont la calvitie des vieux savants apitoie pour la teinte chlorotique de leurs tissus ou les gibbosités qui, tels les engorgements instruments, déforment les anatomies si la plupart portent l'habit. Le cardinal de Richelieu étant allé visiter un couvent de Capucins, un moine fut chargé de l'haranguer au milieu des autres religieux réunis dans la salle du chapitre. L'orateur, bien qu'il parle un peu gauche, s'acquitta le mieux du monde de sa mission. Richelieu le complimenta et lui demanda comment il se faisait qu'il n'eût pas été intimidé de parler devant un prince de l'église. « C'est bien simple, éminence, » lui dit le bon moine. Je m'étais habitué à cet honneur redoutable en répétant chaque jour mon discours devant un carré de choux au milieu duquel se trouvait un gros chou rouge. Lorsqu'en 305, l'empereur Dioclétien, grand profondeur de chrétiens, vieilli et usé par le pouvoir, abdiqua et se retira à Salone, l'Asplie aujourd'hui, sur la côte d'Annan, sollicité par ses amis de reprendre la pourpre des Césars, il se déroba à cette invitation en disant « Si vous pouviez voir les choux que j'ai plantés de mes mains dans mon jardin de Salone, vous ne feriez pas de telles propositions. Car aller planter les choux, c'est reprendre la liberté. Quant à la carrière du vieil empereur, elle était au propre configurée dans les choux. » Une nomenclature des choux pourrait donc s'établir comme suit. De la racine de l'arbre généalogique Brassica oleracea, tel qu'on l'observe à l'état sauvage sur les côtes de l'océan et de la Méditerranée, en Europe occidentale et méridionale, il est connu dans les rochers, dans les falaises maritimes, ou en Normandie, de même qu'à Jersey, et enfin dans les Charentes maritimes. De cet ancêtre, donc du chou, est une plante vivace bisannuelle, parfois même trisannuelle, de 60 cm à 1 mètre de hauteur. Sa tige est simple ou ramifiée. les fleurs en forme de croix qui signifie donc la famille des crucifix, donc étymologique porteur de croix. Le Chaux-Bouxelles est apparu en Belgique en 1785, il est rentré en France en 1815 et en Angleterre en 1884. C'est donc le plus jeune de la lignée des Chaux. Classé la valeur diurétique décroissante, on pourra en tête le chou rouge suivi du chou paumé, puis du chou de Bruxelles, le plus odorant. Viennent ensuite le chou rat, puis le chou navet et enfin le chou fleur qui, malgré sa allure candide et de la docilité avec laquelle il se réduit en bouillie, n'est toujours, selon Henri Leclerc, quelque piètre nourriture. La carrière des choux s'est développée sur une terre d'opérations strictement européenne. Le chou est donc un légume exclusivement européen, fait assez rare et qui mérite d'être signalé. Les Germains et les Celtes cultivaient abondamment le chou, les Romains n'étaient pas en reste car ils en firent la panacée de leur propre pharmacopée. Les constituants sulfurés qui donnent au chou l'odeur caractéristique que l'on sait indiquent que la thérapeutique des propriétés anti-rhumatismales. Mais de là à y voir comme les Romains, si pauvres en médecins et en médecine, le remède universel à tous les maux, la marche est grande. Quand on vante la qualité du chou en ces termes, si dans un repas vous désirez boire largement et manger avec appétit, mangez auparavant du chou cru, confit dans du vinaigre et autant que de bon vous semblera. Mangez-en encore après le repas. Le chou entretient la santé, on l'applique pilé sur les plaies et les tumeurs. Il guérit la mélancolie, il chasse et guérit tout. Les Russes ont fait du chou l'antidote naturel de la vodka. Le chou frisé, encore appelé chou d'hiver, résiste à température de moins 10 degrés, les plus basses après le chou de Bruxelles. En hiver, le chou, toujours en place dans les jardins, règne sur les légumes et affirme sa très grande ancienne présence dans le monde des plantes potagères. La consommation en grande quantité de chou et de rutabaga par les populations pauvres et sous-alimentées peut donner lieu à des troubles de fonctionnement de la thyroïde avec apparition de goitre. Des travaux de Finlande ont permis la mise en évidence de substances thyroïdiennes. La glucocorticoïde, dans certaines conditions hydrolyse, il y aurait libération d'ions qui provoquerait la fixation de l'iode et par la suite la formation de la thyroïde. L'hormone thyroïdienne, l'excès de chou chez les populations carencées en iode peut donc être nocif. C'était l'histoire du chou.
C'était Côté Jardin avec Patrick.
Voilà, l'émission Parlons Terroir s'achève. Aujourd'hui, la thématique était les médecines douces et naturelles à travers finalement les problématiques anxiogènes qu'on rencontre en soma. On a entendu Aurélien Abel-Hébert, ostéopathe naturopathe de Horos, Corinne Hippolito de Marmande, nous présente le tiassou. Et puis également, on a parlé de plantes aromatiques et médicinales, la famille d'Astéracées avec Mathilde Berrichon. Enfin, côté jardin, l'histoire des choux. Aussi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.